France Inter. .fr.
Bonjour. Portrait d'une personnalité du monde culturel, surtout connue pour avoir été le fondateur et président pendant de longues années d'Arte, Jérôme Clément, écrivain, producteur de cinéma, président jusqu'à tout récemment du Théâtre du Châtelet, élu municipal depuis avril 2014 de son village en Anjou, président de la Fondation Alliance Française, président aussi du Festival Premier Plan d'Angers. Il aime la culture, je dirais même les cultures, de la danse au cinéma en passant par la littérature. Jérôme Clément a toujours montré une grande ouverture sur la culture avec un grand C et les cultures du monde. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la musique. Au programme aujourd'hui, Vivaldi, Mahler, Bach, Philip Glass, Tchaïkovski, Mozart. Bonjour Jérôme Clément.
Bonjour.
Alors, vous semblez comme ça, quand on travaille un peu sur vous, être un digne héritier des philosophes des Lumières, tant par
c'est
votre
gentil,
parcours
ça.
Que vos choix musicaux. Ça vous plaît comme...
Oui, ça me plaît beaucoup, bien sûr. Oui. Enfin, je suis pas, j'ai pas la prétention d'être philosophe, mais enfin, en tout cas, les Lumières, ça me plaît.
Les Lumières, pourquoi en particulier? C'est l'ouverture d'esprit, c'est bien sûr la notion de république qui est en germe.
Bah, surtout en ce moment, l'idée des Lumières, principalement, c'est l'ouverture au monde, la tolérance. Et je pense que c'est la naissance d'une conception de la société qui était très ouverte et très curieuse et qui a permis d'établir un ordre juridique nouveau. Alors en ce moment, ça fait rêver.
Alors on va parler de tout ça avec vous pendant cette heure de Vous avez dit classique, Jérôme Clément, mais on va commencer par Johann Strauss et le poème symphonique qu'il a composé en 1895 sur un de ses poèmes à lui, un morceau très théâtral dans lequel le corps joue le rôle de Till, qui compte fleurette aux filles sans succès, saccage un marché en passant à dos de mulet, se déguise en moine pour haranguer la foule. Till Eulenspiegels, c'est le titre, le poème symphonique que vous avez choisi. Pourquoi, Jérôme Clément, c'est votre premier souvenir musical?
Oui, ça c'est un peu le hasard. C'est un disque qu'on m'avait offert quand j'étais petit, un disque 33 tours que j'écoutais souvent en rentrant de l'école. Et je pense que ça a beaucoup compté sur mon éveil musical. Toute cette musique assez foisonnante, le corps comme vous dites, et puis peut-être le personnage aussi qui me faisait rêver. Gérard Philippe l'avait interprété au cinéma à l'époque ou peu de temps après. Donc j'étais dans cet univers et je crois que ça m'a fait entendre des sonorités dont j'avais pas idée.
Et la musique qui raconte une histoire aussi,
c'est important. Et la musique qui raconte une histoire, une belle histoire, vous l'avez très bien résumé, c'est une grande histoire, un grand conte. Donc ça me faisait sans doute voyager à travers la musique, grâce à la musique, grâce à tout ce que j'entendais et à ce à quoi je pensais.
On va écouter un extrait de ce Till, l'espiègle sacrément coquin de Richard Strauss, que vous avez donc choisi, Jérôme Clément, pour commencer cette émission. Till Eulenspiegel's de Richard Strauss par l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction de Claudio Abbado. Pour vous, Jérôme Clément, un disque vinyle donc, que vous avez écouté enfin. Mais est-ce que vous avez grandi dans un environnement musical, Jérôme Clément?
Je prenais des leçons de piano. Quand j'ai eu 5 ans, on m'a mis au piano. Et je veux dire que j'aimais pas ça du tout parce que c'était une contrainte un peu forte. Et en même temps, comme toujours avec les enfants, même si on les force un peu, il en reste quelque chose. Et ça m'a appris. D'abord, j'ai appris le solfège, j'ai appris un petit peu d'harmonie. Enfin, donc j'ai appris à jouer un peu au piano. Et ça m'a donné le goût et l'envie et surtout la connaissance aussi de ce qu'était la musique. Et puis j'en écoutais les disques vinyles. Ça m'a fait rire quand vous avez dit ça parce qu'il y avait rien d'autre de toute façon.
Oui, c'est vrai.
Je pouvais pas.
Mais certaines générations ne savent même pas ce que c'est aujourd'hui.
Oui, je crois que ça redevient un peu à la mode.
Quoi.
Maintenant vintage. Mais en tout cas, je trouve que c'était voilà. Donc j'avais des disques soigneusement mis dans une pochette. Je me souviens très bien de la pochette. On a des souvenirs comme ça qui restent. Et je le rangeais soigneusement. Et j'en avais deux ou trois, pas plus. Et celui-là, je l'ai écouté beaucoup. Il y avait aussi Tannhäuser, l'ouverture. Enfin, c'était des grands morceaux comme ça que j'écoutais et qui m'ont fait comprendre, peut-être aimer et découvrir plus le piano que je faisais à côté. Et puis c'est vrai que chez moi, on écoutait beaucoup de musique. Oui.
Alors vous qui avez grandi dans les années 60 à peu près, à l'époque où il y a toutes ces révolutions musicales, est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un rejet de votre part, de la part du côté de la musique classique, Jérôme Clément, ou à aucun moment?
J'aimais beaucoup la chanson, en fait. C'était pas un rejet, mais je m'intéressais à d'autres choses. C'était une époque très riche, il y avait des grands chanteurs. Je crois que j'ai raté aucun récital d'Yves Montand, de Brel, de Brassens. J'écoutais beaucoup les chanteurs, qui étaient des grands chanteurs de cette époque, d'ailleurs. Et j'aimais bien la musique de variété, comme
pas
on dirait
rock
aujourd'hui. Un petit peu, mais enfin ça c'est surtout dans les surprises parties.
Les surprises parties, les booms, les surbooms. Est-ce que du coup c'est ça qui vous a emmené, la chanson hein, que vous évoquiez à l'instant, vers le Nisi Dominus de Vivaldi, Jérôme Clément?
Non, alors ça c'est autre chose, parce que là, le Nisi Dominus de Vivaldi, c'est une musique qui pour moi est liée à... ça me transportait, ça m'aidait à travailler. Voilà, donc j'aimais beaucoup ça, d'être dans cet univers. Ça me fait découvrir la voix aussi, la voix humaine. Et ça passait par la musique religieuse, peut-être au départ, parce que on en écoutait beaucoup, même aussi bien des cantates de Bach, que de la musique de cette époque. Et Vivaldi, c'est assez facile aussi d'approche. Et ça m'enchantait vraiment d'entendre ses voix. Et puis je le passais en boucle. Là aussi, j'étais un disque et j'adorais ça. Je trouve que Vivaldi m'apportait une espèce d'illumination formidable. Et je l'écoute toujours avec plaisir.
Et vous l'avez écouté en préparant un concours en particulier, me semble-t-il?
Oui, des examens, j'en ai passé pas mal, donc ça m'intéressait beaucoup d'écouter ça, et c'était comme une invitation à l'étude.
Eh bien, effectivement, cet extrait du Nisi Dominus, le Cum Dederit, donc par Antonio Vivaldi, est tout à fait propice à la réflexion et à l'enchantement. Le voici interprété par Andreas Scholl.
Thank you.
Le haut-contre Andreas Scholl qui interprétait donc le Nisi Dominus de Vivaldi, pour vous Jérôme Clément. Et alors, c'était un morceau que vous avez beaucoup, que vous écoutiez et écoutez toujours beaucoup pour travailler, je crois.
Oui, ça m'émeut toujours. Là, je l'entendais dans le studio. Je trouve ça, c'est une musique extraordinairement sereine, belle et émouvante. Et Vivaldi me faisait rêver. Peut-être aussi parce qu'il est vénitien et que c'était lié aussi à l'image de Venise, à toutes ces lumières magnifiques qu'on trouve dans les tableaux de Véronèse ou de Tintoret et tout ça. Et donc voilà, le prêtre roux, comme on l'appelait, ça. Ouais. Cette musique m'enchante.
Effectivement, Venise, on va en parler dans quelques instants, mais c'est effectivement l'ouverture sur le monde, l'ouverture, l'échange avec l'Orient aussi. Ça correspond sans doute aussi beaucoup à vos valeurs. On va pouvoir en parler dans quelques instants, mais je voulais parler simplement du fait que ce morceau-là, Cum dederit delectis sui somnum, apparaît dans le film d'Ipan de Jacques Audiard. Et effectivement, le cinéma fait partie de votre environnement. Proche.
Bah oui, j'ai passé beaucoup de temps. D'abord, j'ai dirigé le centre du cinéma pendant 5 ans et je me suis beaucoup occupé de cinéma. Puis ça m'a jamais quitté après parce que avec Arte, j'ai produit à peu près 400 films et récolté comme coproducteur des palmes d'or, des ours d'or, des récompenses un peu partout. Et je suis vraiment rentré dans l'univers du cinéma qui me plaît beaucoup, qui est absolument passionnant et qui est une façon de rencontrer le monde aussi, parce que quand on raconte une histoire dans un film, on raconte un peu ce qui se passe autour de soi, soit son univers personnel, soit la société. Et voilà, je peux difficilement vivre ni sans écouter de la musique, ni sans aller au cinéma.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Je le disais à l'instant, Jérôme Clément, Vivaldi, Venise ont contribué de manière exceptionnelle à de grandes réalisations dans les domaines de la culture et surtout dans l'art et la musique. Alors, il y a un compositeur dont la musique incarne parfaitement l'esprit des Lumières, c'est Mozart. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez, vous, qui êtes... quelqu'un qui est un digne héritier des Lumières?
Oui, enfin, c'est gentil de m'appeler comme ça. Non, mais ce que j'aime dans les Lumières, c'est aussi, je pensais à Voltaire tout à l'heure, on parlait de l'espiègle, Othilde l'espiègle. Ouais. Voilà, c'est toujours pareil. C'est l'impertinence, c'est l'insolence, c'est la liberté d'expression, c'est l'esprit critique. Je crois que tout ce que véhiculent les Lumières, c'est absolument formidable comme façon d'appréhender le monde. Voilà.
Et alors Mozart? Et parce Mozart, que c'était typiquement ça.
Oui, tout à fait.
L'espièglerie. Bah,
Mozart, c'est un compositeur absolument génial, quoi, qui a tout fait et dont on peut difficilement se passer, quoi. On sait pas très bien comment on ferait s'il était pas là. Comme Bach, d'ailleurs, c'est des grands, des très grands hommes. Et Mozart, c'est à la fois d'une légèreté et d'une profondeur insondable. Donc, le mélange des deux, dans toutes ses musiques, dans tout ce qu'il a écrit, dans ses opéras en particulier, je suis très sensible à ses opéras, à Don Giovanni, bien sûr. Voilà, on touche à l'essentiel. Et quand on pense qu'il a fait ça en si peu de temps, c'est vrai qu'on est confondu.
Alors je vous propose un quatuor qui interprète Mozart. Ici, c'est le quatuor Busch. C'est un quatuor allemand qui a enregistré cet adagio et fugue en do mineur de Mozart, donc dans les studios d'Abero dans 1937. C'est à dessein que j'ai choisi cette interprétation parce que c'est le quatuor Busch, parce qu'on est en 1937 et puis parce que c'est un quatuor allemand, pour pouvoir parler un petit peu de vos liens à l'Allemagne dans quelques instants.
Thank you.
Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio et Fugue en Do mineur que Schell 546. C'est Adolf Busch qui dirige le Busch Quartet. Donc ce quatuor au nom d'Adolf Busch, c'est d'après donc ce violoniste allemand qui a quitté son pays natal au début des années 30 avec la montée du nazisme, puis qui quitte l'Europe pour les États-Unis en 1939. Pour vous, Jérôme Clément, parce que quand on pense que vous avez fondé Arte au début des années 90, quand même plus de 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et pourtant, il semble qu'au début, c'était pas forcément quelque chose de très simple à faire quand on pense à l'histoire de l'Allemagne et à l'histoire de l'Europe au cours du XXe siècle. Ça a été difficile à monter ?
Bah oui, c'était difficile parce que certes, il y avait eu le traité de l'Élysée en 1963 qui scellait la réconciliation entre la France et l'Allemagne que Adenauer et De Gaulle avaient signé, mais ça suffisait pas. Puis il suffit pas de faire du charbon et de l'acier, la CECA, de faire des rapprochements économiques pour rapprocher deux peuples. Oui. Évidemment, ça passe par la culture. On a trop tendance à l'oublier aujourd'hui, d'ailleurs. Et ça supposait d'avoir des projets dans lesquels on mette un imaginaire en commun. Et donc, on se parle de sujets qui nous touchent profondément, comme la musique, comme le théâtre, comme naturellement tout ce que traite ce dont traite le cinéma ou les documentaires. Et donc, au début, on c'était un mariage forcé, quoi. C'était une décision politique, mais on n'était pas forcément à l'aise les uns avec les autres, parce qu'on se demandait toujours, pour nous Français en tout cas, ce que les Allemands avaient fait pendant la guerre, ce qu'on avait en face de nous, d'où ils venaient. Donc on a passé beaucoup de temps à parler entre nous, à discuter, et aussi à le montrer à l'antenne. Ouais, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé des questions franco-allemandes, parce que ça nous paraissait indispensable de traiter ces sujets. Et peu à peu, on a réussi à approfondir cette connaissance mutuelle l'un de l'autre, et ça m'a donné la certitude que ça passait par là, que pour arriver à ne pas se faire la guerre, pour arriver à vivre ensemble, à s'entendre, il faut se connaître. Et pour se connaître, il n'y a rien de mieux que de parler de ce qui nous touche dans les livres, dans la musique, dans l'imaginaire, comme je le disais à l'instant, et ça prend du temps, mais c'est la seule façon de se concilier et de se réconcilier quand on s'est battu.
Alors vous êtes allé la tête la première dans ce projet. Est-ce qu'il fallait être germanophile pour lancer cette chaîne et ce projet culturel fou au départ ?
Bah, moi, j'étais pas du tout germanophile. Mes grands-parents sont morts à Auschwitz. J'avais interdiction d'aller en Allemagne, un interdit maternel absolu. Mais ceci dit, en même temps, j'avais appris l'allemand au lycée. Donc, il y avait des contradictions, comme toujours dans la vie. Il y avait des contradictions fortes. Donc, ça m'était pas inconnu. Je connaissais la littérature, je connaissais un petit peu la langue, et ça me permettait d'avoir une approche très théorique, mais très distanciée du pays. Là, il a fallu que je m'y mette, quoi. Donc,
vous avez quand même bravé l'interdit.
J'ai bravé l'interdit, mais enfin je l'ai bravé avec le consentement maternel quand même.
Ah, quand même.
Oui, parce que ma mère était une femme intelligente qui savait que malgré toutes les souffrances qu'elle avait endurées, il fallait passer par là. Et que je sois justement, moi, venant de cette histoire, un des artisans d'une construction comme celle-là, très symbolique, quand même, Arte, très symbolique. La culture française et la culture allemande, ça avait du sens. Et donc, je m'y suis plongé avec passion et détermination. Ça a été très difficile, parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition, en France, en Allemagne, et à l'intérieur de nous-mêmes, je dirais. Mais je pense qu'on y est arrivé.
Alors, est-ce que c'est comme ça que vous avez découvert Mahler ? Non, j'imagine que vous le connaissiez avant ?
Pas bien, non, pas bien. Mahler, oui, ça a été une découverte un peu tardive, mais qui m'a beaucoup aussi enchanté. J'étais plus dans l'univers dont on a parlé jusqu'à maintenant. Bach, Mozart et Vivaldi, par exemple.
C'est prodigieuse, ouais.
Mahler, ça m'a touché profondément aussi, oui.
Alors, Mahler et Thomas Mann, c'était un lien fort. Je crois que vous vouliez évoquer Mahler à travers Thomas Mann. Bon, on n'a pas choisi la cinquième symphonie,
oui.
Qui est La mort à Venise, mais
oui.
La première. Il semble que Thomas Mann admirait beaucoup Gustav Mahler et que l'écrivain était très affecté par la mort du musicien en 1911. Vous, c'est Mahler, c'est par Thomas Mann que vous l'avez rencontré ?
Oui, enfin, toute cette histoire est formidable, quoi, cette histoire du début du XXe siècle et tout ce qui s'est passé aussi bien à Vienne qu'à Berlin. Et c'est vrai que j'ai découvert Thomas Mann, alors là, pour le coup, par mes rencontres avec l'Allemagne, les Buddenbrock ou d'autres. La montagne magique, et Mort à Venise, évidemment. Mort à Venise, qui d'un seul coup mêlait des choses qui me touchaient profondément, qui étaient à la fois la musique, le cinéma, Thomas Mann.
La littérature aussi, oui. Ouais.
Thomas Mann, parce que c'est un livre extraordinaire, surtout les 50 premières pages dans lesquelles il y a toute une réflexion sur la création. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et voir les trois réunis, c'est une œuvre qui m'a beaucoup touché, quoi. Un film, un livre et un musicien.
Alors, cette symphonie-là de Mahler a été très décriée au moment où il l'a composée, parce que cette façon de justement mélanger la musique populaire avec la musique dite savante, c'était un peu choquant pour l'époque. Il a même osé mettre un peu de musique klezmer, de mariage juif, oui, à l'intérieur de ce troisième mouvement. Alors, le voici pour vous qui êtes originaire de ce monde-là aussi, Jean-Claude.
Oui, absolument.
Thank you.
La première symphonie de Gustav Mahler en ré majeur, celle qu'on appelle la Titan, par l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, sous la direction de Leonard Bernstein. Pour vous, Jérôme Clément, vous aviez encore un mot à dire, je crois.
Oui, parce que vous faisiez allusion tout à l'heure à la musique Klezmer, donc ça emprunte à l'univers juif. Et voilà tout ce que donne le mélange, la richesse du mélange, la richesse de cette musique populaire, de ce grand talent artistique du compositeur et ses emprunts qui finalement nous touchent, même si c'est une musique qui vient d'ailleurs. Peut-être parce que c'est une musique qui vient d'ailleurs.
La Vienne, donc, du début du XXe siècle,
si
riche.
Par exemple.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Le chef d'orchestre Kurt Masur est décédé la semaine dernière à l'âge de 88 ans, Jérôme Clément. Il était directeur de l'Orchestre National de France de 2002 à 2008. Directeur honoraire même jusqu'en 2014. Il a marqué l'histoire de notre orchestre, l'Orchestre de Radio France, hein, l'Orchestre National de France et de la musique, convaincu par l'extraordinaire pouvoir de cet art, notamment pour la paix. Je crois en ce sens il vous rejoint. Voici donc un hommage au maestro à la direction de l'Orchestre National de France avec la violoniste Sarah Nemtanou qui interprète le concerto en ré majeur, opus 35 de Tchaïkovski.
Thank you.
Un extrait du premier mouvement du concerto en ré majeur opus 35 pour violon donc et orchestre par l'Orchestre National de France sous la direction de Kurt Masur. Jérôme Clément, je disais tout à l'heure que Kurt Masur pensait que la musique œuvrait notamment beaucoup pour la paix. Est-ce que vous partagez cette idée-là, que la musique était un bon instrument pour la paix?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il a joué un rôle clé dans le rapprochement entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Donc, la musique a servi de pont aussi. Les deux étaient très mêlés sur le plan politique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas des univers séparés, c'est ce que montre aussi d'une façon éclatante Daniel Barenboim aujourd'hui avec les Diwan Orchestra. Oui, quand il fait jouer ensemble des Israéliens et des Palestiniens, il montre que des gens qui au départ se haïssent, quand ils font de la musique ensemble, d'un seul coup, ils sont transportés par quelque chose qui est plus fort qu'eux, et ça transcende les frontières et les conflits. Mmh. Et on l'a vu avec beaucoup d'autres, avec Penderecki par exemple pour la Pologne. Donc il y a un lien direct entre la culture et la politique, entre la musique et la politique, et le travail qui est fait pour la paix grâce justement à tous ces ponts qu'on crée et qui transcendent les hostilités, ils sont fondamentaux. Moi, je pense que le meilleur antidote contre la violence, c'est justement la culture.
Alors justement,
ce sont pas les lois sécuritaires et la répression. Bien sûr, il faut pas se laisser faire quand on est attaqué, mais ce qui est important, c'est le travail de fond qui se crée. Celui-là, il ne peut se faire que par la culture. Et la musique joue un rôle clé là-dedans, bien sûr.
Alors justement, pour revenir à Arte, on se moquait beaucoup au début d'une chaîne culturelle, hein. Alors qu'on voit bien que le résultat est magnifique, c'est une chaîne qui fonctionne de manière magistrale. Pourquoi est-ce si important que la culture reste au premier plan dans une démocratie? Vous parliez justement à l'instant d'actualité un petit peu, on peut le dire.
Oui, tout à fait. Oui, mais je ne peux pas du tout parler d'actualité. Je pense que c'est tout à fait fondamental. Et moi, je pense qu'on a grand tort aujourd'hui de mettre la culture de côté, de la marginaliser. Non pas qu'elle corresponde pas à un appétit des populations et de nous tous, quoi. On voit bien qu'on a envie d'aller au théâtre, envie d'aller au cinéma, envie d'écouter de la musique, envie de partager des choses, des émotions ensemble ou des réflexions ensemble, mais que sur le plan politique, on est obsédé à la fois par la sécurité et par l'économie. Et moi, ça me convient pas du tout, cette façon d'envisager la société. Je pense qu'au contraire, il faut aller beaucoup plus au fond des choses et que on a besoin des artistes qui nous apportent leur point de vue, une interprétation du monde. On a besoin des écrivains qui nous font réfléchir et penser. On l'a vu avec tous les livres de la rentrée, que ce soit Mathias Sénard ou Boualem Sansal, par exemple, pour prendre des exemples, ou Delphine de Vigan, des exemples contemporains. Mais c'est aussi vrai quand on relit Voltaire, on parlait des Lumières tout à l'heure, ou quand on relit, ou quand on va au théâtre voir les grands auteurs. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Donc, cette dimension-là de l'activité humaine, elle correspond à la fois à un vrai besoin et à une vraie réponse. C'est pas seulement un divertissement. C'est faux de considérer que c'est un divertissement uniquement. Bien sûr, on se distrait quand on va entendre, quand on va rire, pleurer ou chanter ensemble. Mais c'est pas ça uniquement. On touche à des choses fondamentales dans ce qui est au cœur de nous-mêmes et à une aspiration profonde qui dépasse justement les conflits du moment, etc. C'est pas de l'idéalisme de dire ça. C'est de la réalité.
Alors vous, quand vous écoutez Anne Kefelec, Jérôme Clément, puisqu'on parle de la réalité des sentiments et de ce que ça peut faire grandir en nous, qu'est-ce que ça a fait grandir en vous d'écouter Anne Kefelec interprétant Bach retranscrit par Busoni?
Anne Kefelec, elle apporte quelque chose de plus, qui est une extraordinaire douceur, je pense. Et aussi lenteur et peut-être une délicatesse dont on a grand besoin. Thank you.
la version retranscrite pour piano par Busoni du choral BWV 639 de Johann Sebastian Bach, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, par Anne Kefelek. Jérôme Clément, pour finir sur cette question de la culture, l'importance, c'est important pour vous que la culture soit là, existe, pour que notre société ait bien, si je vous ai bien compris.
Bah oui, écoutez, moi, quand j'entends Anne Kefelek, ça me réconcilie, et Bach, ça me réconcilie avec le monde. Je préfère entendre ça qu'entendre parler des chances de nationalité et d'entendre des propos qui m'insupportent et qui m'exaspèrent par rapport aux problèmes du monde. C'est vrai que là, on a l'impression de passer à autre chose et surtout d'être dans un univers de conciliation et de paix et d'harmonie et non pas dans des histoires qui ne riment à rien.
Alors, ce qui fait plaisir aussi quand on vous écoute, c'est qu'on voit que vous restez à l'affût de ce qui se fait de nouveau, on peut dire les choses comme ça, Jérôme Clément. Parmi les nouveautés que vous avez entendues récemment et qui vous plaisaient, il y a Einstein on the Beach de Philip Glass, c'est bien ça ?
Oui, absolument, parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je présidais le Châtelet et Einstein on the Beach a été repris au Châtelet dans une version que je n'avais pas entendue depuis des années. Et d'un seul coup, ça m'a transporté parce que c'est une expérience théâtrale et musicale absolument formidable.
La musique répétitive, on va pouvoir l'observer dans quelques instants. C'est Philip Glass et ça fait partie de notre patrimoine musical classique, on peut bien le dire.
Voilà.
Un extrait donc de Einstein on the Beach, l'acte 1. Pour vous, Jérôme Clément, qu'est-ce qui vous plaît en particulier là-dedans ? La répétition.
Oui, la répétition, c'est une musique en fait très riche, très variée. Là, on a entendu un extrait, mais quand on écoute l'ensemble de l'œuvre, c'est tout à fait divers et varié. Et je trouve qu'on est pris, c'est une musique très prenante, quoi, qui m'a beaucoup surpris au début, comme m'avait surpris la première fois que j'ai vu une œuvre de Wilson, c'était Le Regard du Sourd.
Bob Wilson,
oui. Le Regard du Sourd, et ça m'avait frappé par son rythme, cette espèce de lenteur incroyable. Et là, on est dans la répétition de la musique de Phil Glass. Mais sur scène, il se passe plein de choses aussi, et c'est éblouissant. Et
vous pourriez tout à fait écrire en écoutant du Philip Glass, d'ailleurs.
Peut-être, oui.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Une petite prescription musicale avant de se quitter, Jérôme Clément. Alors, ils font partie du patrimoine culturel brésilien. Ils chantent tous deux depuis les années 60, donc ça fait un petit moment. Caetano Veloso et Gilberto Gil, alors ça pourrait paraître ne pas être de la musique classique, mais c'est de la musique classique brésilienne. Est-ce que ce sont des gens que vous avez écoutés?
Je connais Gilberto Gil, je l'ai rencontré, il était ministre de la Culture,
ministre de la Culture au Brésil.
Au Brésil, donc je le connais bien, je l'ai rencontré très souvent et j'ai entendu un concert de lui. Oui, j'aime beaucoup ça.
Et effectivement,
c'est très vivant, c'est incroyable. Incroyablement animé, c'est bien.
Ils sont amis depuis 50 ans et puis alors tous deux sont obsédés, effectivement comme vous, par la nécessité d'avoir la culture au premier plan pour que la démocratie reste bien vivante. Et c'est la rencontre de deux amis et d'un siècle de musique et 50 ans d'amitié dans ce Coração Vagabundo, un cœur vagabond, pour terminer cette émission.
Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus. E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo.
Se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus. E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
Un siècle d'amitié, de musique, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Coração Vagabundo. Pour vous, Jérôme Clément, j'espère que ça vous a plu, ça vous
beaucoup.
A... Un grand merci à vous d'être venu, donc Jérôme Clément.
Non, merci à vous, t'es content.
Et puis, ben, j'espère à bientôt pour
à bientôt.
De nouvelles aventures. Merci à Anne-Sophie Ladonne qui a réalisé cette émission. Bonne année à vous aussi. Camille Poux Jalaguier et puis Alain Gadan à la technique.
Vous avez dit classique sur France Inter.